Le journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Le gouvernement et les élus locaux n'ont pas réussi à renouer le dialogue au Congrès des régions. La réponse d'Édouard Philippe à l'appel de Marseille en faveur des libertés locales n'a pas convaincu. Y a-t-il toujours des prothèses mammaires dangereuses? Le médecin qui avait lancé l'alerte sur les prothèses PIP appelle à la vigilance après des cas de cancer. Aux États-Unis, Brett Kavanaugh témoigne devant la commission judiciaire du Sénat. 4 femmes accusent le juge conservateur, candidat à la Cour suprême, d'agression sexuelle. Et le dossier du journal sera consacré aux jeunes Gazaouis qui partent s'installer à l'étranger pour tenter une nouvelle vie. Le courant n'est pas passé. Au lendemain de l'appel de Marseille, lancé par les 3 grandes associations d'élus défendant les libertés locales, Édouard Philippe a bien affirmé sa volonté de rétablir le dialogue avec les collectivités territoriales. Mais lors de son intervention ce matin, le Premier ministre n'a pas donné l'impression aux élus qu'il les avait écoutés. Stéphane Robert, vous avez suivi le chef du gouvernement à Marseille.
Édouard Philippe est venu à Marseille devant les collectivités territoriales dans un état d'esprit qui se voulait amical, mais aussi avec une volonté de franchise qu'il a pleinement assumée.
Le lien indispensable qui doit se tisser entre nous a été distendu. Je ne crois pas qu'il ait été cassé, je ne crois pas qu'il ait disparu. Et donc, moi aussi je lance mon appel de Marseille, Monsieur le Président. C'est l'appel à une décentralisation qui accepte la franchise et l'amitié. L'amitié qui crée un lien, la franchise qui autorise à se dire qu'on n'est pas d'accord.
Le Premier ministre a appelé les départements, les communes, les régions à renouer le dialogue, mais sans rien lâcher. Il est resté droit dans ses bottes, Édouard Philippe, ce qui n'a pas manqué de susciter certaines frustrations. Hervé Morin, président de l'Association des régions de France.
Ce que nous voyons de positif, c'est le fait que le Premier ministre soit venu au-delà. Nous n'avons eu, bien entendu, pas le quart du début du commencement d'une réponse. Aujourd'hui, il reste encore beaucoup de parts d'ombre.
Une déception partagée de façon unanime. Carole Delga est la présidente socialiste de la région Occitanie.
Malheureusement, ce matin, Monsieur le Premier ministre n'a pas répondu à notre volonté d'unité. Parce que bien sûr, l'unité, c'est avec l'État. C'est de pouvoir être dans un collectif. Et dans un collectif qui réponde aux problématiques de nos concitoyens, aux inquiétudes des Françaises et des Français.
Pour le moment, les élus locaux n'ont aucunement l'intention de retourner dialoguer avec le gouvernement au sein de la Conférence nationale des territoires. L'exécutif ne mesure pas l'ampleur de la fronde, explique-t-il. Des discussions informelles doivent avoir lieu courant octobre.
Stéphane Robert, beaucoup d'émotions aujourd'hui à Rodez. Le directeur général adjoint de la mairie, en charge notamment de la sécurité, est mort poignardé à proximité de l'hôtel de ville. L'agresseur présumé a été interpellé. Les services de police lui avaient retiré son chien la semaine dernière, un animal jugé dangereux pour lequel il n'avait pas de permis. Emmanuel Macron est arrivé en Martinique, où les habitants guettent surtout l'arrivée de la tempête tropicale Kirk. Les écoles et les crèches sont fermées, les rassemblements en plein air interdits. Le chef de l'État, accompagné de plusieurs ministres, doit notamment aborder la question délicate de la pollution au chlordécone, insecticide cancérigène et perturbateur endocrinien, utilisé jusqu'en 1993 aux Antilles par les producteurs de bananes. Marcel Campion annonce la fin de ses activités foraines et son retrait du marché de Noël de Paris. En guerre ouverte avec Anne Hidalgo depuis un an, Marcel Campion est aussi visé par des plaintes pour homophobie à la suite d'une vidéo révélée par le journal du dimanche dans laquelle il qualifiait les homosexuels de pervers, Bénédicte Robin.
Eh oui, ses propos lui coûtent son trône au roi des forains. Cette vidéo exhumée par le JDD date en fait de janvier dernier en pleine guerre avec la mairie de Paris. Marcel Campion vient de se faire retirer son marché de Noël des Champs-Élysées. Il réunit ses soutiens pour lancer la contre-offensive en un mouvement, un brin politique, baptisé Paris Libéré. Et s'en prend donc en roue libre avec la verve fleurie dont il est coutumier aux élus de la mairie de Paris. Toute la ville est gouvernée par des homos, lance-t-il, précisant qu'il n'a rien contre les homos, évidemment, sauf qu'ils sont un peu pervers, ceux-là, et en particulier le premier adjoint de l'époque, Bruno Julliard. Le roi déchu a beau s'en défendre et même s'en excuser, ses propos sont homophobes face à l'indignation suscitée jusqu'au gouvernement qui s'en est ému, notamment par la voix de son porte-parole, Benjamin Griveaux, des associations qui comptent porter plainte, Bruno Julliard également. Il lâche donc, tout en se disant victime lui-même d'attaques. Il se retire de ses activités foraines pour ne pas nuire, dit-il, au métier. Il avait perdu les Champs-Élysées l'hiver dernier, sa grande roue au printemps. Mais le marché de Noël des Tuileries pourrait bien lui survivre maintenant qu'il le quitte. Mais à 78 ans, Marcel Campion ne compte pas s'en aller bien loin et mûrit sa revanche politiquement ce soir. Il réunit ses troupes pour préparer une liste pour les municipales de 2020 à Paris.
Des propos ou comportements homophobes, sexistes, racistes, liés à la religion, au handicap ou à l'état de santé. Près d'une personne sur quatre déclare en avoir subi au travail. Le Défenseur des droits et l'Organisation internationale du travail publient une enquête commune dans laquelle il apparaît, Catherine Pétillon, que les discriminations frappent inégalement et se cumulent.
Nous ne sommes pas égaux devant les discriminations. Certains sont plus exposés que d'autres, insiste Nicolas Canonou, directeur de la promotion de l'égalité et de l'accès aux droits du Défenseur des droits.
Certaines catégories de la population, par exemple les hommes homosexuels ou les femmes perçues comme non blanches, sont particulièrement exposées. Les hommes homosexuels, il y a 40% qui nous disent qu'ils ont été exposés à ces comportements. Les femmes, c'est plus de la moitié de la population, c'est 56%.
Le pire, c'est quand les critères se cumulent, car cela engendre davantage encore de discrimination. L'avocate en droit social Emmanuelle Boussard-Verreca le constate au quotidien.
Il est certain que cette situation-là s'observe et qu'elle est mal appréhendée par le droit en l'état actuel des choses. Donc il est très important que le Défenseur des droits ait mis l'accent sur une approche intersectionnelle de son analyse et qu'il ait pu comprendre que l'accumulation de critères discriminatoires crée encore une autre situation de discrimination.
Un chemin que doivent encore parcourir les entreprises. Les réponses y sont le plus souvent spécifiques, contre le racisme, le sexisme, l'homophobie, etc. Dans la lutte contre les discriminations, les ressources humaines sont en première ligne, mais cela doit être l'affaire de tous, insiste Bénédicte Ravache, secrétaire générale de l'Association nationale des DRH.
La fonction RH s'est elle-même féminisée, et quand on est soi-même peut-être la seule femme, par exemple, dans un comité de direction, porter la question de l'égalité professionnelle n'est par nature pas si simple. Donc il faut absolument s'assurer que tous ces sujets soient portés collectivement, et justement que ce ne soient pas ceux qui sont susceptibles d'en être les victimes qui en soient le porte-voix.
Les personnes subissant des attitudes de stigmatisation et de discrimination peuvent saisir la justice ou le Défenseur des droits.
Catherine Pétillon, ils sont jugés pour association de malfaiteurs à visée terroriste. Un père et son fils, partis 18 mois en Syrie, comparaissent devant le tribunal correctionnel de Paris. Ils avaient été interpellés en 2015 sur la route du retour en Turquie, avec dans leur bagage des documents sur la manipulation de produits chimiques, des cartes d'aviation et dans un ordinateur des recherches sur le pont d'Iéna et la tour Eiffel. L'audience a commencé par l'interrogatoire du fils Karim Souli, compte rendu d'audience de Florence Turme.
Il avait un peu plus de 18 ans quand il est parti en Syrie avec son père et son frère cadet. Un bac scientifique avec mention, Karim Souli venait d'entrer à l'université en première année de licence, maths physique. Les deux garçons vivent alors avec leur père, ingénieur en télécom, depuis le divorce de leurs parents en 2001. Épisode sur lequel le prévenu n'a pas envie de s'étendre. Il parle de moments houleux, mais il hoche la tête quand la présidente lui rappelle de précédentes déclarations. Je prenais une chaise, je mettais une main sur la bouche de chacun pour qu'il se taise. Cheveux et courte barbe noire, larges épaules et chemise blanche, Karim Souli s'exprime d'une voix posée avec une certaine économie de mots, un père présent, irréprochable, qui posait le cadre global, dit-il. Vous suivez de bonnes études, vous avez un cadre familial, mais alors qu'est-ce qui fait que vous allez partir, interroge la présidente. Sur internet, il y avait des vidéos de bombardements, des gens qui souffraient, j'ai été pris d'empathie. Discours classique. Mais il y a aussi quelques mois plus tôt, le départ de l'un de ses amis, lui aussi élève de Terminal S, qu'il va accompagner jusqu'à l'aéroport. Cet ami dont il annoncera la mort à sa famille une fois en Syrie, événement qu'il a visiblement marqué, et il finit par admettre du bout des lèvres que leur projet était bel et bien de s'installer là-bas définitivement et que c'est leur père qui l'avait décidé.
Florence Turme au tribunal correctionnel de Paris. Il y a 10 ans, il avait alerté l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'AFSAPS, pour signaler les ruptures de prothèses PIP. Aujourd'hui, le chirurgien esthétique Christian Marinetti recommande de surveiller de près un autre modèle de prothèses mammaires, les prothèses texturées BioCell de l'américain Allergan. Elles sont soupçonnées de provoquer un cancer rare et très agressif, Tara Schlegel.
Oui, depuis 2015, les experts de l'Institut national du cancer avaient noté un lien entre implantation de prothèses mammaires et apparition d'un lymphome anaplasique à grandes cellules, cancer assez rare. Entre 2011 et 2018, l'ANSM, l'Agence de sécurité du médicament, a étudié de son côté les 50 cas de ce cancer qui lui ont été rapportés en France, afin de tenter un lien entre le type d'implant et ces lymphomes. Or, l'ANSM met en garde contre une lecture trop rapide de son étude sortie en juillet dernier. En effet, la plupart des femmes malades ont porté au cours de leur vie des prothèses prothèses de marques différentes. En tout, ces 50 patientes ont subi 80 implants. La durée moyenne de ces implants va de 2 ans à 55 ans. Il en ressort tout de même que dans 59% des cas de cancer, les femmes ont porté au moins une fois des prothèses mammaires allergantes. Et que dans 71% des cas, ce sont des prothèses dites texturées, dont l'enveloppe n'est donc pas lisse. Chiffre important, mais à relativiser, car Allergan est la marque américaine et elle couvre plus de 50% du marché français. Dans 97% des cas, par ailleurs, et des opérations en France, les chirurgiens implantent une prothèse texturée. Bref, le docteur Martinelli se veut prudent. Il parle d'un risque faible, mais il invite aussi ses confrères à bien évaluer ce risque.
Tara Schlegel, en France, on estime à 400 à 500 000 femmes qui portent des implants mammaires. L'affaire Kavanaugh est-elle à un tournant? Le juge conservateur choisi par Donald Trump pour siéger à la Cour suprême des États-Unis passe devant la commission des affaires judiciaires du Sénat, commission qui doit voter demain pour confirmer ou non sa nomination. Brett Kavanaugh est dans la tourmente depuis qu'une, puis deux, puis trois, puis quatre femmes l'ont accusé d'agression sexuelle. Et l'une de ses accusatrices, Christine Blasey Ford, a été entendue avant lui aujourd'hui. Elle a refait le récit de son agression devant les sénateurs, Grégory Phillips.
Oui, une audition qui continue encore en ce moment. Christine Blasey Ford a entamé cette audition par ces mots. Je n'ai pas envie d'être là. Je suis terrifié, mais je considère que c'est mon devoir civique de venir ici devant vous, les sénateurs américains, raconter ce qui m'est arrivé avec Brett Kavanaugh ce soir de l'été 1982. La voix brisée, parfois demandant une pause pour reprendre son calme. Cette femme, cette professeure de psychologie à l'université de Palo Alto, raconte donc ce qui s'est passé quand elle avait 15 ans, le récit de cette soirée, enfermée dans une chambre avec Brett Kavanaugh et l'un de ses camarades. Brett Kavanaugh qui, dit-elle, tente de la violer, se met sur elle, tente de lui arracher ses vêtements. Finalement, elle crie. Ce débat, ce dernier, selon elle, pose sa main sur sa bouche et elle dit « J'ai cru qu'accidentellement, il allait me tuer ». Finalement, elle parvient à se réfugier dans une salle de bain voisine. C'est donc ce récit glaçant qu'elle fait devant 21 sénateurs américains, ceux-là même qui devront valider ou non la nomination du juge Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis. C'est un moment très important, suivi ici par quasiment tout le pays. Les chaînes de télévision sont passées en édition spéciale pour retransmettre cette audition. Puis un peu plus tard, c'est le juge Kavanaugh qui sera entendu par ce comité judiciaire du Sénat. Au Sénat, ici, il y a des centaines de personnes qui sont venues assister à cette audience. La salle est plus petite à la demande de Christine Blasey Ford et donc des centaines de personnes regardent ça dans des salles annexes ou bien sur leur téléphone portable pour suivre ce moment qualifié d'historique par de nombreux médias américains.
Grégory Phillips, en direct de Washington. À New York, le Premier ministre israélien et le président palestinien doivent s'exprimer devant l'Assemblée des Nations Unies. Hier, Donald Trump s'est dit favorable à la création d'un État palestinien coexistant avec Israël. Mais pour l'instant, les discussions de paix sont au point mort. Il devrait aussi être question de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Elle gère des millions de réfugiés, mais pourrait devoir fermer à la mi-octobre du fait du retrait financier des États-Unis. À Gaza, Étienne Monin, la situation économique est particulièrement difficile. Et depuis quelques mois, on voit les jeunes et les diplômés partir pour tenter une nouvelle vie à l'étranger.
On est contre l'une des frontières de Gaza de nuit. Quelques dizaines de jeunes se sont rassemblés. Ils viennent ici tous les soirs provoquer les soldats israéliens qui gardent la barrière de sécurité. Ces jeunes incarnent une forme de désespoir, mais ils ne comptent pas passer la frontière pour échapper à leurs conditions. Leur avenir est lié au conflit, dit Abdelatif, jeune Gazaoui.
On est le groupe de déstabilisation nocturne. On coupe les barbelés, on terrorise les Israéliens. On vient là parce que même si on travaille la journée, on gagne 5 ou 7 euros par jour, c'est rien du tout. Il n'y a pas d'argent. Notre problème à nous, c'est les Israéliens, c'est tout. Soit on vit correctement, soit on meurt.
Ici, c'est l'autre frontière pour une autre jeunesse. On est au sud de l'enclave, dans un gymnase. Des centaines de personnes attendent de pouvoir monter dans un bus pour traverser la frontière du côté égyptien. Yad Rabou a 21 ans. Il veut refaire sa vie en dehors de Gaza à l'étranger.
La majorité des jeunes de ma promotion, soit ils sont tous partis, soit ils sont comme moi, ils attendent pour partir. Pour dire la vérité, à Gaza, il n'y a pas d'avenir. guerre, il n'y a plus d'avenir. Là, j'ai trois bagages avec moi.
Ces jeunes qui partent de Gaza ouvrent une voie. Abou Zeid est en train de préparer son envol. Cette année, deux de ses fils sont partis. Ils se sont installés en Turquie. Le plus âgé a trouvé du travail.
C'est lui qui a pris cette décision. Il a fini ses études fin 2014 et depuis, il n'a pas trouvé de travail. Il a essayé. Mais il est resté 3 ans sans rien faire. Ça a été trop dur pour lui. Il n'avait pas le moral. Donc, au lieu de rester à rien faire, il a voulu tenter sa chance. Mais il n'y avait rien pour lui là-bas, quand il est parti.
C'est un vrai phénomène.
Omar Chaban, économiste, il dirige le centre de recherche Palfink.
Beaucoup d'entre eux sont jeunes, beaucoup sont des gens éduqués. La plupart appartiennent à la classe moyenne, ils viennent de familles qui ont les moyens de payer un billet pour la Turquie. Donc ceux qui peuvent changer les choses ici ont déjà quitté Gaza.
L'appel d'air date du printemps dernier. Il est lié à la réouverture de la frontière égyptienne, restée quasiment hermétique pendant des années. Mais c'est avant tout une fuite, regrette Abou Zeid, le père qui a laissé partir son jeune fils et le plus âgé diplômé.
C'est une façon de fuir la réalité. Il n'y a pas de plan derrière, c'est une fuite. La réalité ici est dure, très noire. Il n'y a aucun espoir. Alors peut-être que mon fils va trouver une meilleure vie, un espoir et un travail. Ici, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'espoir et pas de travail. On est prisonnier.
À Gaza, l'espoir est devenu une denrée rare. Les crises politiques et économiques s'aggravent sensiblement. La Banque mondiale et l'ONU préviennent d'un risque de rupture.
Étienne Monin, correspondant de France Culture à Jérusalem. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, est de passage en Tunisie. Le but de cette visite, empêcher l'émigration irrégulière en direction de l'Italie et obtenir le rapatriement des Tunisiens arrivés illégalement en Italie. On retrouve Maureen Mercier à Tunis.
Le ton est presque cordial.
L'objectif de l'Italie, du gouvernement italien, est de...
Notre objectif est de devenir le premier partenaire économique, culturel et touristique de la Tunisie. Nous sommes à des kilomètres des déclarations fracassantes qui avaient provoqué ici une levée de boucliers. Matteo Salvini accusant cet été la Tunisie d'exporter des délinquants et des condamnés. Certes, le ton est plus calme, il n'empêche, l'objectif du ministre de l'Intérieur n'a pas bougé d'un millimètre.
La priorité, évidemment, era bloccare.
La priorité, c'est évidemment de commencer par bloquer les centaines de milliers d'arrivées incontrôlées que nous avons vues débarquer ces dernières années. Une fois qu'on en aura fini avec l'immigration irrégulière de masse, à ce moment-là, oui, nous envisagerons une immigration légale, limitée et qualifiée, parce que ce sera une valeur ajoutée pour notre pays, l'Italie, ainsi que pour les autres pays.
En clair, la Tunisie doit verrouiller ses plus de 1000 km de littoral et empêcher tout départ. Matteo Salvini s'est entretenu aujourd'hui avec le président et le ministre de l'Intérieur. Le chef du gouvernement tunisien, lui, s'est abstenu officiellement pour des questions d'agenda. La société civile espère, elle, que le Premier ministre a voulu passer un message. Les déclarations de cet été n'ont pas été oubliées.
Et le gouvernement italien peine à boucler son projet de budget pour 2019. Le Conseil des ministres a été retardé de 2 heures à cause des dissensions entre le ministre de l'Économie et les deux composantes de la coalition, la Ligue et le mouvement 5 étoiles. L'adultère n'est plus un crime en Inde. Les juges de la Cour suprême indienne ont invalidé un texte de loi datant de l'époque coloniale et qui prévoyait une peine de 5 ans de prison quand un homme avait une relation avec une femme mariée. Cette loi traitait la femme comme une victime et surtout comme une propriété du mari. Retour sur cette décision qui illustre les évolutions sociétales en cours en Inde avec Sébastien Farsi à New Delhi.
Il est temps d'affirmer que le mari n'est pas le maître de son épouse. C'est avec cette formule lapidaire que le président de la Cour suprême a invalidé cet article du code pénal indien vieux de 158 ans. Cette loi punissait de 5 ans de prison un homme qui couchait avec une femme mariée sans l'accord du mari de cette dernière, faisant ainsi passer cette épouse pour une propriété qui serait usurpée. L'épouse n'avait d'ailleurs pas son mot à dire, même si elle était consentante, et surtout, elle ne pouvait pas poursuivre son mari si lui se révélait infidèle. Le gouvernement s'était opposé à cette dépénalisation de l'adultère afin, disait-il, de préserver la sainteté du mariage. Argument rejeté donc par des juges qui ont considéré que s'il y a adultère, c'est que le mariage est déjà sacrément compromis. La Cour suprême indienne signe ici sa troisième importante réforme sociale en un mois, après la dépénalisation de l'homosexualité et la restriction de l'utilisation de la carte nationale biométrique. Tous ces changements vont dans le sens du renforcement de la protection de la vie privée des Indiens, signe d'une modernisation d'un pays où, traditionnellement, l'individu a peu de liberté car il est forcé de suivre les décisions de sa famille, de sa caste ou de sa religion. Cette évolution est la marque de fabrique du président de la Cour suprême, Deepak Mishra, qui prend sa retraite lundi prochain.
Sébastien Farcy, correspondant de RFI et France Culture en Inde. Demain, vendredi, le temps sera nuageux le matin au nord de la Seine, avant une embellie l'après-midi. Ailleurs, le soleil dominera. Température minimale 7 à 19 degrés, maximale 17 à 30, jusqu'à 31 voire 32 près de la Méditerranée. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.